oui, bienvenue aux Apatrides Anonymes sur choc.ca en ce 19 mars 2026 pour votre revue bimensuelle des actualités nationales et internationales sur les questions migratoires, les questions autochtones et aussi d'autres enjeux comme la prolifération des régimes autoritaires et d'extrême droite, le racisme ordinaire et systémique, les dérives sécuritaires, les droits humains, mais sans oublier toutes ces initiatives populaires de résistance qui et de solidarité qui font que, ben, malgré ces temps, disons, dystopiques, on a quand même encore un peu envie de se lever le matin. En parlant de ça, on va s'entretenir tout à l'heure avec Mouloud Edir, membre du collectif 19 mars, qui, je cite leur site web, rassemble des personnes qui croient encore en l'égalité, la justice sociale, raciale, migrante et environnementale. Ça fait du bien à entendre et à lire. Salut Mouloud.
Bonsoir Marie-Ève, merci à toi et Mathieu pour l'invitation.
Ben écoute, ça nous fait plaisir. On va se reparler dans quelques secondes. Sinon, vous présentez un peu le programme de l'édition d'aujourd'hui. Ça va se faire en duo avec moi, Marie-Ève, à l'animation, et Simon à la console non. Pour le moment. Pas Simon, Mathieu.
Oh, Simon est absent, Mathieu ben oui. Est là. Oui, bonsoir.
Sors de ce corps. Aïe, aïe. De ton côté, toi, tu veux nous parler de quoi, Mathieu?
Ben moi, je vais parler des actualités françaises, bilan 2025 sur les expulsions, les régularisations et les protections. Parler aussi de certains pays africains, l'actualité là-bas en lien avec la migration et autres aussi. Et je vais parler aussi des enjeux à Immigration Canada et à Immigration Québec. Ça va toujours aussi bien.
Oui, non, c'est ça. OK, ben on va voir tout ça avec toi tantôt. Moi je vais compléter le tout avec des brèves en provenance de la France, de l'Égypte et en plus de revenir sur des cas bien de chez nous de bavures policières, mais plus particulièrement pour vous parler du BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes. Alors on vous revient dans quelques secondes en compagnie de Mouloud Edir. Il y a 2 ans, aujourd'hui, exactement, l'équipe du Centre Justice et Foi et de la Revue Relations a été cavalièrement, c'est le moins qu'on puisse dire, mise à pied avec un délai de 48 heures par le conseil d'administration du centre qui est géré par les Jésuites. S'en est suivi une période d'incertitude et de lutte de la part de l'équipe pour, en tout cas, au moins recevoir là, une certaine compensation puis essayer de sauver la revue. Puis, début 2025, ben, les Jésuites ont annoncé la fermeture définitive du Centre Justice et Foi et de la Revue Relations après 83 ans d'existence, ce qui en faisait la plus vieille des revues culturelles et sociales du Québec. Donc, comme je vous disais en intro, on reçoit aujourd'hui Mouloud Edir, qui est ancien membre de l'équipe du Centre et de Relations, qui, avec d'autres collègues, ont fondé le collectif 19 mars, bien nommé en cette date fatidique. D'abord, Mouloud, merci encore d'avoir accepté notre invitation. On va tout de suite se débarrasser de l'éléphant dans la pièce, là, pour pouvoir, après ça, se concentrer plus là sur le collectif et ses projets. Mais là, 2 ans, jour pour jour, justement, après votre mise à pied, vous en êtes où, là, tu sais, par rapport à ça, toi et tes collègues? Ou tes anciens collègues, vont
dire. Oui, c'est ça. On voit ce qu'on en est. Bon, ça a été un événement traumatique. Hein. C'était ben oui. Une grande injustice qui est arrivée pour des raisons qui ont été données par le CA, qui restent des raisons nébuleuses, qui n'ont jamais été crues par les membres de l'équipe, directement affectés par cette mise à pied à 2 jours. Hein. Donc, on a reçu la nouvelle du CA le 19 mars et il fallait quitter les bureaux, plus accéder au courriel et tout, 2 jours plus tard. Quoi qu'il en soit, ce que je peux dire, c'est que ça a été traumatique. On a même perdu un de nos collègues qui est décédé hier. J'ai même des raisons de croire que ce traumatisme...
Il y a un certain lien, oui, ouais, c'est ça. Mes sympathies à toi et tes collègues.
Merci,
ouais.
Merci infiniment. Et puis, je pense à lui, je pense à sa conjointe et je pense à ses enfants.
Veux-tu le nommer ou...
Oui, mon collègue Frédéric Barriot, qui s'occupait de la recherche, qui était chargé de la mémoire du christianisme social. Personne, historien, socialement engagé, très progressiste, qui est décédé, emporté par la maladie fulgurante de 53 ans. Il est décédé hier. Bon, je dédie ma contribution de ce soir à lui et à ses proches. Et j'ai une pensée également pour mes collègues qui ont été affectés. Mais pour dire, donc pour répondre directement à ta question, la plupart d'entre eux et elles se sont retrouvés dans d'autres lieux de travail. Il y en a qui sont au chantier de l'économie sociale, il y en a qui sont au centre de formation populaire. Quoi qu'il en soit, l'ensemble de mes collègues, il n'y a personne qui a traversé l'autre côté, du côté patronal. Ils sont tous restés dans le milieu de la défense de droits, l'économie sociale, le mouvement communautaire.
Engagés socialement d'une certaine façon.
Oui, moi je suis dans le milieu syndical, donc on essaie de survivre. Parce qu'il faut survivre financièrement. Mais sinon, on a fondé donc ce collectif 19 mars en écho un peu à cette date qu'on a voulu récupérer puis investir dans un nouveau contenu beaucoup plus propositionnel. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, un collectif qui veut résister.
Ben c'est ça. Avant de plonger plus directement sur ce qui vous a mené, là, plus peut-être un peu le processus, dernière question sur cette saga-là. Est-ce que tu sais si... il y a des initiatives concrètes là pour préserver les archives du Centre de justice Foy et peut-être de la revue elle-même, de la revue Relations.
Oui. C'est une préoccupation. Malheureusement, c'était pas une préoccupation qui venait du CIAN et des Jésuites eux-mêmes.
Okay, ouais.
C'est une préoccupation des membres de l'équipe.
Okay.
Oui, ne serait-ce que des choses aussi prosaïques que la préservation du site Internet, parce que la revue Relations, c'est l'une des plus vieilles revues au Québec. Sinon, la plus vieille avec l'Action nationale. C'est quand même une revue qui date de 41. Le site est très riche, surtout depuis le début des années 2000. Il y a des numéros et des numéros, des contributions sur moult thématiques, syndicalisme, l'actualité religieuse, politique, culturelle, sociale, altermondialiste. Il en va de même du secteur que moi j'animais sur les questions migratoires et de protection des réfugiés. Donc c'est un site qui est très riche.
Foisonnant, oui.
Mais il a fallu se battre pour ça, c'était pas acquis.
Ah oui, mais jusque-là. Hein. Oui,
sans doute que le contenu qui est là n'arrange pas la nouvelle province jésuite.
Ceci expliquant peut-être
ça. Voilà, mais ne rentrons pas trop là-dedans, là, non, parce que ça resterait un point de vue personnel. Mais quoi qu'il en soit, un contenu politique très engagé, très riche, et on s'est battu pour que ça soit maintenu. Là, on a acquis un petit moratoire. Là, normalement, ça devrait, le site de relations du Centre de justice et foi et du secteur Vivre Ensemble sont encore actifs, minimum pour une année encore.
Okay.
Mais ça allait pas de soi. Il fallait arracher ça.
Ouais.
Voilà, pour ce qui est des archives, voilà.
Puis comment vous en êtes venu donc à cette idée-là de créer le collectif 19 mars?
Ben, je te dirais que les gens affectés par cette mise à pied, on était vraiment une équipe soudée, on était vraiment une communauté d'esprit, une communauté de pensée, une communauté d'engagement. Il y avait des liens extra-professionnels. Le Centre de justice et foi, tu connais hein, Marie-Ève, tu as gravité autour, mm-hmm. tu connais les personnes, c'est des personnes engagées, puis entièrement, donc c'est des personnes aussi qui voulaient rester en lien entre elles. Et puis on trouvait aussi qu'on avait des apports qui se trouvent pas ailleurs. Puis là, c'est pas pour porter un jugement sur ce qui existe au Québec, mais sans doute pour un centre comme ça, du groupe majoritaire francophone, avec un parti pris pour le pluralisme, un parti pris sur les enjeux d'exclusion, l'un des... Je te dirais même, c'est le premier centre de Centre Justice et Foi d'une organisation blanche, là, pour dire les choses de Québécoises de souche, là. C'était le premier organisme, par exemple, qui a posé la question de l'islamophobie publiquement.
En dehors
des groupes militants comme Solidarité sans frontières, les mouvements de défense des sans-papiers, les certificats de sécurité, bien entendu, tout ça, c'est la cause de l'islamophobie. Mais le concept direct lié aux questions migratoires, lié aux questions laïcité, ben ça montre un certain courage. Les syndicats ne vont pas là-dedans, les organisations de défense de droits ne vont pas spontanément là-dedans, le mouvement communautaire ne touche pas directement à ça. Ben, le Centre de justice et foi, c'était ça. C'était une vision critique des politiques utilitaristes en matière migratoire. C'était un centre qui avait des prises de position réelles, claires, sans ambiguïté sur les reculs en matière de droit d'asile, contre la brutalité policière, pour des perspectives féministes et non patriarcales à l'intérieur de la tradition chrétienne. Vous avez... Donc, nous, on voulait que ces perspectives-là, avec un point de vue surtout sur les questions géopolitiques également, qui n'est pas occidentalo-centré, un point de vue anti-militariste, anti-impérialiste. Écoute, Marie-Ève, tu sais très bien que pour un organisme de ce type, il n'y en a pas beaucoup.
Non.
Voilà, avec un tel degré de respectabilité. Donc, on tenait à ce que cet héritage-là se poursuive. Et on a dit, on va se saisir de cette date. Hein. On ne va pas prendre cette date-là comme quelque chose qui serait quand même...
Un deuil.
Ouais, puis on a voulu sublimer ça positivement, là. Ouais. Pour parler le langage de l'école de Francfort, on a voulu donner une nouvelle puissance à cette date, la réinvestir d'un nouveau contenu, puis ça donne ce que ça donne là. Et puis je suis personnellement très touché que votre émission soit sensible à ça, puis que vous nous donniez un peu de temps d'antenne pour ça.
Écoute, je pense que les grands esprits se rencontrent.
Ah ben, c'est bien dit ça.
Avant
c'est
de... Avant de prendre une petite pause, je lisais sur votre site que vous aspirez à être un lieu d'échange. Vous aspirez à produire des analyses et des réflexions, à participer au débat public et à contribuer à la construction d'alternatives sociales, politiques, culturelles plus justes et plus inclusives. La question qui tue, comment concrètement entendez-vous faire ça?
Ben, on compte le faire en intervenant publiquement. Dans un premier temps, par de l'animation de la vie intellectuelle, donc contribuer par des débats, par des podcasts, par des webinaires, par des activités, par des ateliers, mais concrètes, ou le travail des idées, mais aussi le travail de témoignage qui consiste à être au plus près de des enjeux, au diapason de ce que tu as nommé, donc les questions migratoires, le travail temporaire, la lutte à la précarité. On veut le faire en étant dans les lieux où ces questions-là sont portées, proches des coalitions, en faisant valoir les points de vue les plus avisés, les plus informés, les plus critiques, les plus au diapason des réalités terrain. Donc c'est ce qu'on veut continuer à faire. Donc c'est un travail contre-hégémonique par rapport à toute l'idéologie dominante. Pour le moment, on le fait gratuitement. On n'est pas subventionné. Ouais. On le fait bénévolement. C'est pour ça qu'on démarre lentement. Mais tu auras remarqué que le premier webinaire qu'on a fait,
Sur Gaza.
Bah, on écho à la conjoncture. On assiste au premier génocide de l'histoire de l'humanité qui est en direct. On peut pas ne pas se prononcer là-dessus. C'est ça le sens de justice, ces fois. Les prises de position sur la Palestine, à mon avis, ne sont pas étrangères à ce qui nous est arrivé. Donc c'est tout naturellement que c'est à partir de la question palestinienne qui est pour nous une boussole politique qu'on a voulu renaître au collectif du 19 mars.
OK. Écoute, on s'arrête 30 secondes à peine pour quelques notes de musique, puis on vous revient. On est toujours en compagnie de Mouloud Edir du collectif 19 mars. Juste avant ces quelques notes de musique, on parlait
de la Palestine.
De la Palestine, mais tu sais, c'était quoi un peu le projet politique, ou en tout cas derrière tout ça, derrière le collectif. T'as parlé beaucoup des idées et est-ce que ça veut dire que vous excluez d'emblée, par exemple, l'idée là de faire plus des actions ou des types plus des agents d'action ou de comme des manifestations ou autres, vous allez vous en tenir plus aux idées, aux
discussions d'idées? Non. Tu regarderas l'infolette qu'on a envoyée aujourd'hui, là. Nous, on invite les membres, les abonnés à prendre la rue, hein, je veux dire. Oui, bien sûr, il y a des actions concrètes. On croit au travail des idées, mais on croit aussi au mouvement insurrectionnel. Nous, on pense que l'insurrection précède toujours l'institution. c'est par la rue, c'est par les mobilisations que les choses sont acquises. Hein. Les droits, les grands principes, ils tombent pas du ciel. Hein. C'est quelque chose qui est arraché, ça. Donc oui, on pense que les mouvements insurrectionnels, c'est important. Tu verras dans l'infolette qu'on a envoyée, on invite les gens. On a relayé le message du collectif Échec à la guerre pour la manif de samedi, par exemple.
Ouais.
C'est un exemple d'action concrète au diapason d'un mouvement anti-guerre, anti-militariste. On va être là, on veut que nos membres soient dans la rue. Et on veut aussi que le public qui voyait en le Centre Justice et Foi une plateforme légitime, crédible pour faire cheminer la majorité francophone sur certaines questions. On veut que ces gens-là, qui nous font confiance, viennent dans ces lieux-là. On essaye donc de disséminer certaines idées qui sont celles de notre collectif dans des segments de la société québécoise qui ne sont pas d'emblée acquis, mais on veut faire ce travail-là. Oui, bien sûr, être dans la rue, on veut le faire, ça, c'est indéniable.
Puis est-ce que tu parles, entre autres, là, il y a la guerre au Liban, tu parlais de Gaza, du génocide en cours à Gaza. Est-ce que, dans le contexte actuel, est-ce qu'il y a d'autres questions sur lesquelles vous voulez voulez intervenir plus particulièrement?
Oui, ben les questions des débats sur l'identité, les questions du racisme, c'est des questions importantes. Les questions écologiques, les questions autour du racisme, bien entendu, le droit d'asile, les travailleurs migrants temporaires, toute cette précarité-là, la question des violences policières et de l'impunité, c'est toutes des questions qui nous tiennent à cœur. Donc, moi, je pense qu'un programme politique de gauche, réellement de gauche, moi, là, je parle pour moi, là, je dis pas tous mes collègues ne diraient pas les choses de la même façon. Je considère, tu verras, nos aspirations et le petit libellé qui résume un peu notre esprit. Mm. Moi, je me considère à la gauche de la gauche, mais après ça, mes collègues, ils se définiront eux-mêmes, là, si tu les invites. Mais moi, c'est clair que ce que
donc,
je viens...
Donc, ces tensions, plus, ça en prend pas grand-chose pour être à la gauche de la gauche. Hein?
Ouais, mais il y en a qui ressentent le besoin de pondérer ça. Ils se disent progressistes, ils se diront comme ils veulent. Oui, je pense que ce travail-là, on veut le faire. Je viens de te nommer là, les questions anti-impérialistes, anti-militaristes, les questions de l'impunité policière, le racisme, l'immigration. Je pense que si on est de gauche, c'est là qu'il faut être. C'est là que sont les catégories les plus prolétarisées, les plus marginalisées, ceux qui ont vraiment, si on veut être au diapason, si vous voulez, si tu veux, des catégories les plus, ceux qui ont...
Qui ont les mains dedans, si on veut.
Qui
font les choses, qui font le changement.
C'est ces luttes-là qu'il faut porter, puis voilà, il y a des courants réactionnaires qui sont très, très puissants. Il faut essayer de faire le boulot. Hein.
Tu parlais que vous avez organisé, je pense que c'était en janvier, un webinaire sur Gaza. Mm-hmm, mm-hmm. Tu parlais de l'infolettre que vous diffusez aussi. C'est quoi les projets? Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels vous travaillez qui s'en viennent?
La question qui tue, oui, je savais. En venant,
la deuxième.
Oui, comme je t'ai dit, on est un groupe bénévole. Là, on va se constituer. On a eu notre numéro, on s'est enregistré. On veut essayer de faire les choses formellement. Donc, on est un peu dans la paperasse administrative, mais on sait très bien quels sont les enjeux qui sont dans les enjeux de l'œuvre sur lesquels il n'y a pas beaucoup de libre parole au Québec. Mm. Je pense à la question géopolitique autour de l'Iran, par exemple, là. Mm. Il y a la défaite de l'anti-impérialisme, moi, c'est quelque chose qui m'attriste au Québec. Ça fait partie des questions qui je veux prendre à bras le corps, là, si vous voulez. Sur l'Iran, on a besoin d'entendre autre chose que le discours, là, qui nous fait peur avec les mollahs et la République islamique, là. Dès que ces mots-là sont prononcés, et puis, c'est ça, on voudrait proposer des choses sur les questions des inégalités nord-sud.
Une analyse un peu plus fine,
oui,
disons, là, et
oui,
moins
c'est
binaire.
Ça. Le continent africain, je suis content que vous ayez une sensibilité à ça. L'Afrique qui subit de plein fouet les inégalités impériales. Donc, c'est les causes structurelles qui poussent les gens à partir. Ça, c'est toutes des choses qu'on veut mettre en lumière. Je pense que j'aurai des occasions de revenir ici, je pense.
Je pense que oui. Voilà. Mathieu, tu voulais intervenir?
Hein? Ben, une autre question qui tue, Mouloud.
Il n'y a rien qui me tue, moi.
Il n'y a rien qui tue, non. Non. T'es pas tuable, c'est clair.
Ben, pas par des questions.
Non. Est-ce que vous allez partir une nouvelle revue?
Ah, la revue Relations. C'est... Moi, j'ai pas travaillé directement pour la revue Relations. J'étais juste dans le comité de rédaction. En tout cas, merci de poser la question. Tu sais très bien les difficultés liées au monde des revues aujourd'hui, mais par rapport à la relation, là, juste profiter de ce segment de l'émission pour dire une chose. Une des choses qu'on aimerait, là, c'est un numéro hommage à la revue Relation. Donc, mes collègues de la revue Relation travaillent maintenant à ramasser un peu... Je pense qu'il y a une maison d'édition, je pense que c'est la rue Dorion.
Rue Dorion, oui.
Oui, ça a été soumis à d'autres maisons, mais la rue Dorion a accepté. Voilà, donc il y aura un projet collectif... un hommage à cette revue-là et à sa contribution. Mais est-ce qu'on va partir une nouvelle revue papier avec tout ce que ça demande comme moyen?
C'est du boulot. Hein?
C'est pas dans les plans. Mais une contribution similaire sur un site web ou sous la forme de podcast.
Oui, peut-être.
Ça,
hein,
c'est dans les projets, là, d'ici la fin de l'année.
OK. Puis, ce que je comprends bien, le collectif est donc constitué principalement là, de personnes, ben, en fait, d'ex-membres, là, soit du centre ou de la revue.
De chercheurs proches du Centre Justice et Foi, parce qu'on avait des chercheurs autonomes qui étaient souvent, par exemple...
OK, comme des collaborateurs, collaboratrices.
Oui, ben, l'ex-rédacteur en chef de Relations, Jean-Claude Ravé, par exemple, qui a pris sa retraite, est devenu chercheur associé. On a des profs d'université qui sont chercheurs associés. On a des personnes socialement engagées sur les questions d'église, mais qui sont très progressistes, qui se sont rattachés à nous. Mais là, le travail qu'on refait, là, parce que là, moi, je suis le président du CIA, du collectif, là, on réfléchit un peu à notre raison d'être, on veut réfléchir à notre membership. On est dans le processus de réflexion, on veut intégrer des nouveaux membres, on réfléchit à ça, quel profil, qu'est-ce qu'on veut, dans quel délai.
Ah, ben, c'est ça, je voulais demander.
Oui,
c'est parfait.
Oui, c'est tout, c'est dans les plans.
Tu me devances.
Oui, oui, oui.
Mais c'est bien correct.
C'est ça. Mais on veut.
Donc, vous n'êtes pas encore officiellement constitué légalement en guillemets.
Oui, c'est fait.
C'est fait.
On a
ça.
Un compte bancaire, on a un numéro d'entreprise du Québec et tout. Oui, on a fait le boulot.
Comme OSBL, quoi, ou quoi? Oui. Ben, écoute.
C'est pas déjà fini.
Ben oui, ça passe vite, hein.
Ben voilà.
Ben écoute, on te réinvitera, Mouloud, n'est qu'à partir d'un mois.
Sinon, je te demanderai de redonner l'information pour la manif de samedi des Chakalaka.
Oui, c'est prévu dans mon agenda à la fin de l'émission.
C'est ça, c'est samedi à 13h normalement.
Exactement.
Merci infiniment, Maria.
Au Square Dominion, mais oui. je vous le réannonce en fin d'émission.
Voilà. Merci.
Peut-être dire aussi que vous avez un site internet, j'imagine, et tout ça, hein, Mouloud?
Oui, tout.
Collectif 19 mars.
Point, ORG. C'est ça, .org, voilà. Là, pour le moment, il y a.
Mais vous pouvez, allant sur le site, on peut s'abonner aussi à l'infolettre, voilà, pour être tenu au courant de ce qui s'en vient. Puis...
Voilà. C'est ce qui s'en vient. Puis on a déjà l'enregistrement du premier webinaire qu'on a fait avec Didier Fassin, Monique Chemillier-Gendreau et René Broman. Extraordinaire, par ailleurs, hein, cette contribution-là. Il est disponible sur le site, vous pouvez le voir également.
OK, ben merci. On s'en va en musique et puis on vous revient avec le cours bien régulier de l'émission.
Je vois l'enfer par ma fenêtre, c'est affreux, dégoûtant. Une chance que Dieu m'a fait naître. Le paradis n'est pas éphémère. Signe avec le diable, tu te la fais mettre. Direct jusqu'à voir le destin d'un habitant de Sodome et Gomorre. Mon avenir est brillant. Shine. Ma liasse multicolore, mes blessures indolores. Je me balade tranquille. I'm Kiel West seul. Je suis légal, j'ai juste mon couteau, mais c'est Wesson. No, elle s'est fait éclater dans un Westin. Le lever du soleil s'écarte vers le West. Soon. Investi, fais des placements. Eustus pour des classements. Prostitué. J'excite les bitches fascistes, vu que j'ai contribué au grand remplacement. Que l'éternel qui peut m'inquiéter. Mes prières sont synchro à mes crises d'anxiété. La psy me dit de travailler sur moi. Ma mère me rappelle mon manque de piété. Sous ma propre tutelle, je me provoque en duel. Combat spirituel. Je fais de l'argent et chante. I got a habit, shout out Max B, ça devient habituel. Les démons ont trinqué. Sur 30 snitch, y'en a 10 flingués. J'ai pas la peau d'ici, ma vie sous peau. Et si à strip, je suis un rebeu distingué. Armé jusqu'au temps, c'est pas Daesh, c'est l'Empire Ottoman. Pour faire cette merde, c'est M6 en sourd. Mon regard me permet de menacer en main mon nom. Mais la somme, où je signe pas le contrat fiston. Life's fin flex, j'arrive plus à bench press. Le poids de mes contradictions. Fucked up. Pensez au mec tout, tu m'as rancœur. Yeah. Avec l'aura d'un vilain grand cœur. Avec l'aura d'un vilain simple été. On my best and worst days. The Eman, rebeu nord-américain grand cœur. Avec l'aura d'un vilain grand cœur. Avec l'aura d'un vilain simple été. On my best and worst days. The Eman, rebeu nord-américain.
On était avec Mouloud Dédir du collectif 19 mars. Et là, on venait d'entendre le rappeur québécois Nawfal et la pièce Diamond, qui est tirée de son tout premier album Blues Beldi, auquel a contribué le beatmaker Kier, un album qui mêle rap, influence maghrébine, jazz et sonorité orientale, et qui se trouve en 37e position du palmarès local de Choc. Mathieu, t'es bien derrière ton micro?
Oui.
Je voulais juste tester que tout était bon.
Je suis prêt.
C'est bon. Le 3 mars dernier, avant de te passer la parole, Mathieu, le 3 mars dernier, le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, a annoncé qu'il porterait pas d'accusation contre les policiers impliqués dans le décès d'Abizay Cruz. Je sais pas si t'as vu ça.
Ben oui.
Abizay Cruz qui a été tué lors d'une intervention à Montréal le 30 mars 2025. Pour rappel, ce jour-là, trois policiers du SPVM ont plaqué sur le sol Abizé Cruz sur le balcon d'un immeuble résidentiel dans le nord de Montréal, sous les yeux de voisins qui ont relayé les images sur les réseaux sociaux. Celles-ci montraient un jeune homme menotté à plat ventre, le genou d'un policier pressé dans son dos. L'homme de 29 ans est ensuite décédé d'un arrêt cardiaque en chemin vers l'hôpital. Dans son communiqué annonçant sa décision, le DPCP écrit que la force utilisée était, je cite, « raisonnable et minimale, sans autre véritable explication », selon la Ligue des droits et libertés et la Coalition contre la répression et les abus policiers. Il n'y a rien sur les gestes précis commis par les policiers à l'endroit d'Abizé Cruz, ni sur les versions de ses voisins et de ses proches, alors que le BI en a rencontré 11. Bref, selon la Ligue et la Coalition, tout ça pointe vers un parti pris de la part du DPCP en faveur des policiers. Et parce que c'est que, contrairement à d'autres organismes au pays, le BEI refuse de rendre public un résumé exhaustif et anonymisé de ses rapports d'enquête. Par exemple, sur les démarches d'enquête, les éléments de preuve rassemblés, puis les déclarations détaillées des témoins et des personnes impliquées. Et puis, ben, on sait que sans ces informations-là, c'est impossible pour le public de savoir s'il y a des contradictions entre la version policière et celle des témoins présents, par exemple. Et même les familles des personnes qui ont perdu la vie ou été gravement blessées lors d'une intervention policière n'arrivent pas à avoir accès à ces informations-là. D'ailleurs, la semaine dernière, trois d'entre elles ont envoyé une lettre au ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, pour demander que l'enquête administrative déjà annoncée sur l'intervention de la police de Longueuil qui a mené au décès du jeune Nouran Rezaï soit élargie pour inclure le processus d'enquête du BEI. Donc, une enquête sur le bureau des enquêtes, finalement.
Ben oui.
Dans le cas de Nouran Rezaï aussi, il faut savoir que là, le BEI a remis au DPCP son rapport d'enquête la semaine passée aussi. Donc là, on va surveiller la décision du DPCP. Là, ça peut être long, la remarque, là, mais bon. Je termine juste en rappelant que des 420 enquêtes complétées depuis 2016, seulement 3 ont mené à des procédures judiciaires selon les statistiques du BEI lui-même.
Et aucune à des condamnations.
Et non, aucune.
Donc,
alors,
oui, ce dossier-là, on va en reparler. Parce
à part
que là,
une dernièrement que j'ai vue, là, mais c'est pour un agent du métro.
Non, c'est ça. Oui. De toute façon, c'est une accusation. C'est pas une condamnation,
non,
de toute façon.
Ça.
Mais non, on en parlera du BEI parce que ça brasse de plus en plus. Il y a eu la manif du 15 mars dimanche dernier, à Longueuil, devant les bureaux du BEI.
Exact.
Et ça a été beaucoup discuté dans les médias, dans différentes plateformes, différentes tribunes au sujet de cette coquille vide,
oui,
qui est même malicieuse, qui est le BEI.
Effectivement.
Écoute, Maria, moi, je vais parler d'immigration, un de nos sujets de prédilection et central de notre émission, ce qui se passe un peu à Ottawa, Québec, au niveau de la bureaucratie puis de la politique. Je vais commencer avec Immigration. Sur son site web, affiche un délai de plus de 10 ans pour les demandes humanitaires. Il estime en fait qu'il faut plus de 45 ans hors Québec pour obtenir une réponse, tandis qu'au Québec, ça serait 8 ans actuellement. C'est des chiffres dont on a parlé déjà, mais qu'il faut se rappeler parce que c'est toujours mis à jour dans le mauvais sens. Les demandeurs humanitaires sont actuellement presque 68 000 à attendre une réponse à leur demande de résidence permanente. La très grande majorité se trouve déjà au Canada. La logique du premier arrivé, premier servi s'applique dans ce dossier, dans ces programmes-là. Les places disponibles dans le dernier plan des niveaux d'immigration fédérale sont très limitées et les programmes ne sont pas plafonnés ou ont des plafonds d'admission élevés, ce qui entraîne de longs temps d'attente. En guise de comparaison, environ 18 500 demandes pour considération d'ordre humanitaire étaient en attente de traitement en 2019. Et en 2024, 19 000 personnes ont été admises dans cette catégorie. En 2025, la cible était de 10 000. Et pour les prochaines années, on passe de 6 900, 5 000 et 5 000 en 2028. Donc, les chiffres augmentent et les cibles, les places baissent. Ça, c'est pour ce qui est des demandes humanitaires. Un autre système, complètement, on pourrait dire, qui fait partie d'un système à deux ou trois vitesses. La ministre fédérale de l'immigration, Léna Diab, ajoute trois nouveaux volets de résidence permanente au système Entrée Express du Canada. Lors d'un discours prononcé devant le Canadian Club de Toronto il y a quelques semaines, Mme Diab a expliqué que la stratégie globale de son gouvernement en matière d'immigration consistait à attirer les meilleurs et les plus brillants, tout en réduisant le nombre de résidents permanents et temporaires admis au Canada chaque année. ça répond à ce que je viens de parler avant, oui, là, finalement. Et là, on parle des chercheurs et des cadres supérieurs. Dans les transports, les pilotes, les mécaniciens aéronautiques et les inspecteurs sont ciblés. Un nouveau volet sera créé pour les militaires étrangers recrutés par les Forces armées canadiennes comme médecins, infirmières et pilotes. Ces volets viennent compléter les catégories existantes dans 13 presse qui concernent les médecins, le personnel infirmier, les dentistes, les pharmaciens, les charpentiers, les plombiers et autres travailleurs spécialisés. Bon. Donc, c'est la loterie. Il faut avoir le bon métier, avoir le bon ticket, comme on dit, en Europe. Fait que système entrée express versus la résidence humanitaire. Sinon, du côté de la belle province, Québec rejette la main tendue d'Ottawa et ne traitera pas en accéléré les dossiers des réfugiés déjà acceptés qui attendent depuis des années leur résidence permanente. Alors que les délais sont actuellement de près de 10 ans, cette décision aura des conséquences terribles sur l'intégration et la réunification des familles selon des organismes et avocats en immigration. En novembre dernier, le gouvernement canadien avait annoncé une initiative ponctuelle, on en avait parlé, qui visait à traiter au cours des deux prochaines années les quelques 115 000 dossiers, à l'époque en novembre, de réfugiés reconnus comme personnes à protéger, qui n'étaient toujours pas résidents, donc des dossiers qui traînaient. Le gouvernement du Québec avait été invité à participer à l'initiative, puisqu'environ 36 000 de ces réfugiés sur 115 000 se trouvent au Québec, et que le délai d'obtention de la résidence permanente pour cette catégorie est de plus de 9 ans au Québec.
Ouais,
le reste du Canada, c'est en moyenne 17 mois. Le ministre Roberge indique qu'il ne souhaite pas traiter ces demandes hors seuil. Je le cite. « Afin de respecter nos cibles, nous avons décidé de ne pas participer à cette initiative. Libre au gouvernement fédéral de camoufler la hausse massive de l'immigration en créant des catégories hors seuil et en évitant de les compter dans les chiffres officiels », a-t-il déclaré. Ce qui changerait, hein, avec la résidence permanente pour ces réfugiés-là, par contre, c'est la possibilité de voyager hors du Canada et surtout de faire venir leurs enfants parfois restés dans le pays d'origine. Pour Janet Dench, porte-parole du projet pour la réunification familiale des réfugiés, plus on attend avant de réunir les familles, plus difficile sera l'intégration des parents et des enfants.
Ben oui.
Je termine avec, en soulignant l'éditorial du Devoir du 9 mars, qui s'appelle « Justice rendue pour les demandeuses d'asile ». La Cour suprême a tranché. Il est discriminatoire pour les femmes d'exclure les demandeuses d'asile d'un accès aux services de CPE pour leurs enfants. Sitôt rendue, cette décision magistrale qui vient corriger une injustice a été remise en question par des membres de la classe politique québécoise qui menacent de recourir à la clause dérogatoire pour contourner la conclusion des juges. Ce spectacle est absolument désolant. Ça, c'est le Devoir. Et juste vous dire que C-12 a été adopté au Sénat le 12 mars dernier. Donc, les membres de la Chambre des communes vont le réétudier avec les amendements que le Sénat a fait pour une dernière fois. Mais vu que le projet avait déjà été adopté en première lecture, il y a des bonnes chances qu'il soit adopté rapidement dans les prochains jours. Donc, C-12, je vous raconterai pas c'est quoi, j'ai pas le temps là. On en a parlé beaucoup et on va en reparler donc bientôt.
OK, ben merci Mathieu pour ce tour d'horizon des dernières nouvelles en immigration au Québec et au Canada. Tu veux-tu nous présenter ton choix musical?
Oui, ben c'est un nouveau groupe qui existe depuis 2025. Premier mini-album s'appelle I'm Not Your Fucking Sex Doll, sorti en novembre dernier.
C'est clair.
Il s'appelle The Sore Heads. C'est la pièce No Means No. Vous allez sûrement deviner le sujet. Et c'est un quatuor montréalais qui donne dans le Riot Girl Punk, l'idée par la chanteuse Maria Jiménez, et j'ai pas de choix à vous annoncer malheureusement, mais c'est à voir. D. Sore Heads.
On écoute ça.
God, the world is so fucked up right now. And I was just waiting for my friend, casually, pint in my hand. There's this guy across the bar. I spot him, older fellow. And he starts staring me up and down with these laser beam eyes. Starts getting up from his chair and rocking over. He says, "Hey, sweetheart, how's your night going?" So I say, "Good, I guess." And he looks at the empty stool and says, "Do you want some company?" But he didn't get the memo.
C'était The Soreheads avec la pièce No Means No.
On l'a bien compris. Ouais, c'est ça.
On s'en va en France où, début février, je vous avais annoncé que 10 militants britanniques du mouvement d'extrême droite Raise the Colors avaient été interdits de séjour en France par le ministère de l'Intérieur pour avoir agressé verbalement et physiquement des personnes migrantes près de Dunkerque dans le nord du pays. Trois militants de Raise the Colors avaient aussi confronté des membres de Médecins sans frontières, les accusant de faire le jeu des passeurs et d'encourager des personnes à venir agresser des femmes au Royaume-Uni. Eh bien, au début mars, MSF a officiellement déposé plainte auprès du tribunal judiciaire de Paris, contre Raise the Colors pour diffamation. D'autres plaintes pourraient suivre aussi là, de la part de plusieurs membres de l'équipe de MSF pour des faits de violence psychologique. Ça, c'est rapporté par l'AFP. À part ce petit suivi, toujours en France, une affaire là-bas, en tout cas connue sous le nom de Vendange de la honte, s'est conclue au début du mois. La principale prévenue, l'ex-dirigeante de l'ancienne société de prestations viticoles Anavim, était accusée d'avoir exploité une cinquantaine de vendangeurs, souvent sans papier, dans un vignoble de la Champagne en 2023. Et donc, en juillet dernier, elle avait été condamnée en première instance à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Et puis là, la cour d'appel de Reims a confirmé sa condamnation à 2 ans de prison ferme, rien de moins, pour traite d'êtres humains, travail dissimulé et emploi d'étrangers sans autorisation. Il y a aussi ces 2 accusés qui étaient principalement le chargé du recrutement qui ont vu leur peine légèrement allégée par rapport à ce qu'ils avaient reçu là, comme condamnation au tribunal de première instance. Donc, ça a été légèrement allégé à 1 an de prison avec sursis chacun. Ce sont des mois d'enquête là, qui avaient permis d'identifier 57 victimes en tout, en majorité originaires du Mali, de Mauritanie, de Côte d'Ivoire ou encore du Sénégal. Les vendangeurs avaient été logés dans un bâtiment insalubre et vétuste avec des installations électriques dangereuses, des matelas au sol, aussi leur nourriture était insuffisante. En septembre 2023, il y a l'inspection du travail qui avait même jugé que leurs conditions de vie et de travail portaient, je cite, « gravement atteinte à leur sécurité, leur santé et leur dignité ». Et donc là, les 3 accusés ont aussi été condamnés à verser 4 000 € à chacune des 53 victimes au titre de leur préjudice moral. En revanche, les accusations contre la société du viticulteur qui avait retenu les services d'Anavim ont été abandonnées. Puis, quant aux rémunérations non perçues par les saisonniers, elles vont faire l'objet d'une audience ultérieure devant le Conseil des prud'hommes, l'équivalent du tribunal du travail ici. Mais bon, quand même, aujourd'hui, les ex-vendangeurs peuvent au moins commencer une nouvelle vie parce que être reconnu comme victime de traite peut donner accès à un titre de séjour de 10 ans. Donc, ça va peut-être leur laisser la possibilité de souffler un peu.
C'est pas l'entrée express, hein, ça, disons.
Oui, boy, non, pas vraiment,
c'est l'entrée
non.
par les grosses étapes difficiles.
Ouais, là, non, c'est ça.
Et l'exploitation. Ben, on reste en France, Marie-Ève. Écoute, moi, je vais faire un bilan. Soyez attentifs, attentifs. Il y aura beaucoup de chiffres, mais je vais essayer d'y aller tranquillement. Donc, bilan d'année 2025 au niveau de l'immigration. Donc, la Direction générale des étrangers en France,
oui.
qui dépend du ministère de l'Intérieur, a publié les chiffres de l'immigration en 2025. En ce qui concerne les éloignements forcés, ils ont augmenté de 21% à près de 16 000 contre 12 800 en 2024. Et au total, en comptant les éloignements forcés, aidés et spontanés, ils ont augmenté de 16% par rapport à 2024 avec près de 25 000 étrangers renvoyés hors de France. Les 3 premières nationalités concernées par ces éloignements sont les Algériens, les Marocains et les Tunisiens. Un étranger éloigné sur 4 est d'origine maghrébine, précise la DGEF. À noter que les ressortissants égyptiens et guinéens font leur apparition dans le classement avec respectivement 633 et 666 retours en très forte hausse, respectivement de 84 et de 189% pour les Égyptiens.
Même, ouais.
Le nombre d'interpellations d'étrangers en situation irrégulière a lui progressé de 30% l'an dernier. Il s'établit à 192 000 interpellations, plus 61% depuis 2022. Hein, on voit où l'argent est mis dans la répression.
Ouais.
En ce qui concerne les régularisations exceptionnelles, ce qu'appelle les AES pour admission exceptionnelle au séjour, le chiffre a baissé de 10% avec 28 600 étrangers régularisés l'an dernier. je cite, il y a l'impact de la circulaire Retailleau qui visait à rappeler le caractère exceptionnel de ces régularisations et endurcir les conditions, a cité un militant d'un groupe, pour les sans-papiers. Pour rappel, il faut désormais au moins 7 ans de présence en France pour un étranger qui demande une AES contre 5 ou 3 ans auparavant et avoir travaillé 12 mois continu au cours des 2 dernières années. Dans le détail, ces AES pour motifs économiques ont baissé de 11% et pour motifs familiales de 6%. Celles aux étudiants ont chuté de 82%. Donc, il y a vraiment une volonté de réduire. Ça, c'est pas toutes les régularisations. Là, c'est vraiment des demandes de... C'est pas tous les permis de travail, tout ça, c'est vraiment des demandes qui sont faites spécialement pour des situations spécifiques.
Ouais.
Du côté des titres de séjour classiques, justement, la France a délivré 384 000 premiers titres de séjour l'an dernier, en hausse de 11 %. Les titres étudiants sont toujours les premiers, 118 000, suivis des motifs humanitaires, plus 65 % à 92 000, qui englobent notamment les réfugiés statutaires. Donc ça, c'est les voies plus officielles. Sinon, selon les derniers chiffres de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, 145 200 demandes de protection internationale ont été enregistrées en 2025, soit 5 % de moins qu'en 2024, donc les demandes déposées par des personnes pour avoir la protection. En 2025, 4 pays ont dépassé la barre des 12 000 dossiers, l'Afghanistan, 13 000, la RDC, 13 000, Haïti, 12 000 et l'Ukraine, 12 000.
Okay.
Deux autres pays africains se hissent dans le haut du classement, la Guinée, 8 000 demandes et Côte d'Ivoire, 7 000 demandes. A contrario, en 2025, les demandes de réexamen poursuivent leur forte progression à 43 %. Donc, les gens qui contestent la première demande, la première refus. Oui, c'est ça. Le taux de protection avant le recours éventuel devant la Cour nationale du droit d'asile s'établit à 41 % en 2025, soit 2,5 % de plus qu'en 2024. Cette tendance s'explique par la place prépondérante des protections accordées aux ressortissants ukrainiens, afghans et haïtiens.
Ouais.
Au total, en 2025, le nombre de décisions positives s'établit à 78 000, soit une hausse de 12 % par rapport à 2024. Donc, c'est quasiment une demande sur deux qui est acceptée au niveau de la protection.
De l'asile. Ouais.
De l'asile, exactement. Plusieurs nationalités se distinguent par des taux de protection très élevés en lien avec leur situation. Soudan du Sud, 91 %, République centrafricaine, 80 %, Soudan, 73 %, Somalie, 71 %, Burundi, 78, Érythrée, 80%, Haïti, 94, Birmanie, 92, Chine, 92, Ukraine, 92, Syrie aussi, Iran, 82, on va en avoir plus bientôt, Yémen, 80 et Afghanistan, 79%. Sinon, ben, les pays comme l'Angola à 20%, l'Afrique du Sud aussi à 20%, le Bangladesh, 23, les Indiens, 14, les Népalais, 14, donc sont beaucoup moins favorisés. Sinon, ben, la CIMAD a fait une analyse critique de ces chiffres-là, relatifs au droit de séjour et à l'expulsion des personnes. Je vous lis quelques observations qu'ils font. La hausse apparente de 11% des premières délivrances de titres de séjour en France s'explique surtout par un rattrapage administratif, la fin d'une pratique illégale qui bloquait les titres délivrés au titre de l'asile à libérer des milliers de dossiers en attente.
Ah.
Voilà, c'est pour les titres de séjour officiels. Les régularisations exceptionnelles, déjà très limitées, reculent encore de 10%, reflétant les premiers impacts de la loi Darmanin et de la circulaire Retailleau, qui durcit les critères dans les deux cas.
Ouais.
En 2025, la France a enregistré une hausse de 15% des expulsions, on a dit 25 000 tantôt, soit le niveau le plus élevé en 10 ans, auquel s'ajoutent 24 000 éloignements depuis l'outre-mer, dont 90% concernent Mayotte, un territoire qui expulse presque autant que l'Hexagone à lui seul.
Ah oui, OK.
Un autre 25 000 dans le coin de Mayotte, entre autres.
Ouais.
Cette politique répressive repose sur une escalade de la contrainte. Les éloignements forcés ont bondi de 20%, comme on disait tantôt, tandis que les départs volontaires et aidés ont presque disparu. Cette intensification s'explique aussi par une explosion des interpellations, 31%. Donc, pour la CIMAD, entre machines administratives à expulser et chasse aux personnes migrantes dans l'espace public, hôpitaux, hébergements, dépôts de plaintes, cette politique révèle une dérive sécuritaire et une banalisation de la violence institutionnelle.
Ouais.
Derrière ces statistiques se cache un durcissement continu des politiques migratoires marqué par des réformes successives qui restreignent les régularisations, renforcent le pouvoir discrétionnaire des préfectures et facilitent les mesures d'éloignement. À lire aussi dans Infomigrant, tout ça vient d'Infomigrant, un article du 16 janvier qui s'appelle « Des années de tracas et d'angoisse, un an après la circulaire Retailleau, la régularisation toujours plus difficile pour les sans-papiers ». C'est pour des témoignages de sans-papiers, si ça vous intéresse, comment ils vivent ça actuellement dans la France de 2026. Et je termine, Marie-Ève, avec une autre publication de la CIMAD du 27 janvier. Ben, je suis mal d'infomigrant, c'est mes deux références aujourd'hui. Triste anniversaire de la loi Darmanin et de la circulaire Taillot, un bilan alarmant. Je vous cite seulement une phrase. La fin du mois de janvier 2026 marque les 2 ans de la loi Darmanin en matière d'asile et d'immigration et les 1 an de la fameuse circulaire Retailleau, que j'arrête pas de nommer, sur l'admission exceptionnelle au séjour, un double anniversaire de répression et d'atteinte aux droits des personnes étrangères. Donc, voilà le bilan en France 2025 à différents niveaux, au niveau de l'immigration.
Ben, merci Mathieu. On peut s'attendre à ce que 2026 soit...
Encore pire.
Encore pire, avec l'accord 1 pour 1, entre autres, avec l'Angleterre, puis avec les nouvelles mesures que je vous parlerai à un moment donné, là, qui viennent d'être adoptées par les nouvelles politiques de l'Union européenne. Là,
oui.
Ça devrait...
Oui, on va en parler bientôt, c'est une bonne idée, ça.
Oui, ouais. Ça fait longtemps que je veux parler de ça, donc j'y consacrerai probablement un micro à la prochaine émission.
Ben voilà, puis il faut te dire, Marie-Ève, aussi, que c'est une allée électorale en France, un peu partout, fait que ça va être assez chic au niveau des... qui va être le plus répressif envers les migrants et les immigrants.
Donc, écoute, Mathieu, tu nous annonces une autre pièce de ton choix.
Ma deuxième pièce, toujours de 2025, septembre, d'un mini-album qui s'appelle Jira, c'est Birds et Fred Léoné, la pièce Wanya Nien Yan Manj. Nathan Bird, connu professionnellement sous le nom de Birds, est un rappeur, auteur, compositeur et producteur de disques australiens actif depuis 2021. Fred Léoné est un chanteur et artiste multidisciplinaire autochtone australien. Et c'est des cousins. Le titre en langue Bouchoula signifie « Comment vas-tu? » Et ça parle de colonisation et de racisme en Australie. Donc, on y va avec Birds et Fred Léoné.
Welcome to colorful television. Now you can f*** the f*** off.
When they talk a lesson, knowledge they be kicking. Old people wisdom, black full of business. White full of wanna make a profit off it. Speak up and we end up in the coffin off it. Trying to make it past 65 though. Another one dead and gone, it's really do or die, bro. Take a wrong turn and we out of viewing. Peace to the dead and we back into it. In the belly of the jungle, this is where it come to. Obstacles to run through, hoping they gon' find you. Jelly, 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 we gon' hit the ground running. Old people with us, they'll never see us coming. Change and there's no turning back. Run with my family and jump over traps. My aim in the game is to make it through the black. Like you ain't paid your bills and sometimes try to find my peace along my song lines and reach the kind of heights that I can't find. Time and my effort, my kids I invest in. Choosing a lesson, we never second guess it. Invasion not settlement, why they always meddling? Caught in the middle and they went and let the devil in. Oh no, here he come. Alone in the wild, boy, you better run.
Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca avec les Apatrides Anonymes. On écoutait une pièce de Birds and Fred Leon. On se tourne vers l'Égypte, où depuis le mois de décembre, un climat de peur s'est installé chez les personnes réfugiées. Amnesty International rapporte que des policiers en civil arrêtent arbitrairement des personnes originaires de Syrie, du Soudan du Sud et d'autres pays d'Afrique subsaharienne, après des contrôles d'identité dans la rue ou sur les lieux de travail. Selon l'Initiative égyptienne pour les droits de la personne, en deux semaines, près de 5000 réfugiés ont été placés en détention dans des commissariats surpeuplés. Il y a une autre ONG de défense des droits humains, Human Rights Concern Eritrea, avance que plus de 3000 réfugiés érythréens ont été arrêtés depuis début janvier, subissant parfois des mauvais traitements et des violences sexuelles. Il y a des témoignages recueillis par l'AFP qui décrivent des cellules bondées, des détenus entassés debout pendant des heures, dormant à tour de rôle, d'autres parqués dans des cours extérieures. Il y a la plateforme des réfugiés, une ONG locale qui rapporte de son côté au moins deux décès en détention, un enfant détenu malgré des douleurs thoraciques et un homme de 67 ans qui avait été privé de soins. Les autorités égyptiennes, elles, font valoir que une grande partie des réfugiés-là et demandeurs d'asile sont aujourd'hui en situation irrégulière, faute de titre de séjour valide, raisons pour lesquelles ils ont été arrêtés. Sauf que, selon Amnesty International, des personnes enregistrées comme réfugiées auprès du HCR sont dans les faits expulsées ou détenues avant leur expulsion. Plusieurs d'entre elles avaient même des rendez-vous programmés à la Direction générale des passeports et de la nationalité du ministère de l'Intérieur en vue de renouveler leur permis de séjour. Mais le problème, c'est que ces rendez-vous-là sont souvent repoussés en raison des retards de traitement du gouvernement. Il y a des personnes réfugiées et demandeuses d'asile qui ont déclaré avoir attendu jusqu'à 3 ans pour ne serait-ce qu'avoir un rendez-vous. Là, actuellement, selon les chiffres d'Amnesty International, si les rendez-vous avec le HCR et les services d'immigration égyptiens s'échelonnent jusqu'en 2029. Plus grave encore, l'ONG rapporte que des personnes se sont vues confisquer leur carte de réfugié du HCR et leur titre de séjour par des policiers lors des arrestations. Amnesty, dans ce contexte-là, accuse l'Égypte de violer le principe de non-refoulement en plus de sa propre législation en matière d'asile et demande aux autorités égyptiennes de, je cite, « libérer immédiatement toutes les personnes réfugiées et demandeuses d'asile détenues arbitrairement pour des motifs liés uniquement à l'immigration et cesser d'expulser des personnes ayant le droit à une protection dans le cadre du droit international. » Je termine en disant qu'en janvier, un peu plus d'un million de personnes réfugiées et demandeuses d'asile étaient enregistrées auprès du HCR dans le pays. Le HCR affirme d'ailleurs qu'en nombre de demandes d'asile reçues, l'Égypte se classe deuxième derrière les États-Unis.
Combien t'as dit?
Un peu plus qu'un million.
Tabarouette.
Ouais.
Puis en plus, il y a plein d'Égyptiens qui se retrouvent
qui
maintenant.
Qui s'en vont.
Ben oui, c'est un pays que ça va très, très, très mal.
Exact.
Beau régime autoritaire et militaire. Donc, Marie-Ève, tu me passes la parole?
Oui, je te passe la POC.
On reste en Afrique, mais en Afrique...
subsaharienne.
Oui, en bonne partie, plus au sud. Alors, on va commencer par une série d'articles d'infomigrants qui vient, dans le fond, de RFI, parce qu'il y a des audios aussi, sur les réfugiés congolais au Burundi. Très intéressant. Je vais vous lire quelques extraits des articles. Il y en a trois. Le premier article s'appelle « Ils m'ont violé devant mes enfants ». Ça part fort, hein? « Au Burundi, les réfugiés congolais traumatisés par les blessures invisibles de la guerre ». Donc, l'offensive de l'AFC M23 sur le territoire d'Uvira, dans le sud Kivu, en décembre 2025, a provoqué la fuite de dizaines de milliers de Congolais vers le Burundi voisin. La majorité d'entre eux a été regroupée à l'est du pays dans le camp de réfugiés de Busuma. Sous les abris de fortune, ils tentent de se reconstruire. Ils racontent les bombes, les familles séparées et les traumatismes qui ne les quittent jamais. Sarah fuit la guerre avec ses 7 enfants. Elle est venue dans une clinique pour réfugiés à Busuma confier ses douleurs visibles et invisibles. Le docteur Parfait Baluge, responsable de la clinique, a très vite compris en arrivant sur le site l'urgence d'offrir un soutien psychologique aux réfugiés. Environ 70% de la population souffre de traumatismes. Deuxième article, au Burundi, des réfugiés congolais pris au piège d'une aide qui s'essouffle. Sur le site de Busuma au Burundi était un lieu prévu à l'origine pour accueillir 20 000 personnes. Il y en a des dizaines de milliers de plus.
Ouais.
Et qui n'était encore à leur arrivée qu'un terrain vague. pas d'abri, pas d'eau, pas d'infrastructure. 3 mois plus tard, malgré les efforts des humanitaires, les familles vivent toujours dans une immense précarité. Promiscuité, manque d'eau, aide alimentaire tardive. À Busuma, l'urgence se heurte aux coupes budgétaires internationales. Les équipes de Médecins sans frontières ont depuis installé une canalisation pour l'eau. Le choléra qui avait frappé en décembre est contenu et c'est maintenant la rougeole qui guette. Depuis décembre, des dizaines de décès ont été recensés, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. L'aide alimentaire a aussi tardé à être distribuée. Le Programme alimentaire mondial envisage aujourd'hui de réduire de 25 % les rations quand ses ressources s'épuisent. Lassés, certains réfugiés le disent, ils veulent rentrer en RDC malgré la guerre qui continue. Et le dernier article s'appelle « À Busuma, au Burundi, les réfugiés congolais entre sentiments d'enfermement et désir de retour ». Les réfugiés ne sont pas autorisés à sortir pour des raisons de sécurité, entre guillemets, expliquent les autorités burundaises, mais face à l'extrême précarité, certains n'hésitent pas à tenter de s'enfuir. Par exemple, Kitiwa Muzingwa, ancien directeur de radio au Congo, vit mal cet enfermement. On est considéré comme des prisonniers. Aujourd'hui, il est sans revenu, mais dépendant d'une aide insuffisante dans le camp.
C'est ça.
Mais dans le camp, beaucoup vivaient à Uvira et depuis que les groupes armés se sont retirés, rester à Busuma dans la précarité peut sembler absurde. Sauf que seul un accord entre le Burundi et la RDC pourrait permettre un rapatriement. En attendant, et depuis que la frontière a rouvert entre les deux pays, le HCR plaide pour un assouplissement. Je cite M. Simplice Kamdige, responsable local du Haut-Commissaire. S'il y a des personnes qui veulent partir, c'est leur droit. C'est pour cela qu'on continue de négocier pour que les personnes qui se sentent prêtes et qui n'ont pas besoin de notre appui pour partir chez elles puissent le faire.
C'est
donc,
ça.
C'est un peu la situation. Sinon, au Sénégal, Marie-Ève,
oui.
Un autre sujet complètement. L'homosexualité est considérée comme une déviance et criminalisée, comme dans d'autres pays africains et ailleurs. Le Conseil des ministres a adopté le 18 février un texte prévoyant de durcir les peines encourues par les personnes homosexuelles. Jusqu'ici, le Code pénal sénégalais prévoyait des peines de 1 à 5 ans de prison pour les actes dits contre nature avec un individu de son propre sexe. Le nouveau texte prévoit de doubler ces peines. Le texte prévoit également de sanctionner toute personne qui aura fait l'apologie de l'homosexualité.
Les marches de la fierté.
Ou des articles, des films financés, des organismes.
Ouais.
Elle sera punie d'un emprisonnement de 3 à 7 ans. Ça vient beaucoup de la Russie, d'ailleurs, ces trucs-là. Je cite toutes les organisations qui tentent d'encourager, que ce soit par des films de propagande, le cinéma, la télévision ou l'écrit, encourager la philosophie LGBT qui ne fait pas du tout partie des mœurs, des coutumes et de la culture sénégalaise. Tous ces gens-là sont concernés, a indiqué le ministre sénégalais de la Culture, en rien de moins. L'adoption de ce texte en Conseil des ministres fait suite à une vague d'arrestations le 7 février dernier. 12 hommes ont été arrêtés et sont accusés d'avoir eu des relations homosexuelles. Plusieurs des personnes interpellées ont été testées séropositives et sont accusées par les autorités de transmission volontaire du VIH par des rapports non protégés et mise en danger de la vie d'autrui. Dans la foulée de cette affaire, 5 autres personnes ont été arrêtées, dont un célèbre journaliste de la télévision publique. Ces 2 vagues d'arrestations ont été mises en avant par les médias sénégalais et un amalgame a été fait avec une toute autre affaire. Qui s'est passé au début du mois de février, la police a annoncé avoir démantelé un groupe international de pédocriminalité entre le Sénégal et la France et arrêté 14 personnes à Dakar, notamment accusées de pédophilie en bande organisée. Dans les manifestations qui ont éclaté depuis la révélation de ces affaires, des pancartes mettant côte à côte homosexualité et pédocriminalité ont été vues à plusieurs reprises et dans les médias et les réseaux sociaux, comme tu peux te douter aussi. Est-ce qu'il me reste un peu de temps, Marie-Ève?
Oui, vas-y.
Une minute et demie, peut-être.
Oui.
Là, c'est vraiment dans le très, très tragique. Là, la mission indépendante d'établissement des faits de l'ONU sur le Soudan a fait état d'actes de génocide à El Fasher, terre d'exaction après sa prise par les paramilitaires des FSR à la fin octobre 2025. Depuis la chute d'El Fasher dans le Darfour, le corps de fer voisin est devenu le front le plus disputé du conflit qui oppose depuis avril 2023 l'armée aux paramilitaires, aux FSR, avec une intensification des frappes de drones. Dans un rapport intitulé « Caractéristiques du génocide », la mission de l'ONU a établi que l'intention génocidaire était la seule conclusion raisonnable que l'on puisse tirer des agissements systématiques des FSR. Ces actes sont caractérisés par des meurtres ciblés en fonction de critères ethniques, des violences sexuelles, des destructions et des déclarations publiques appelant explicitement à l'élimination des communautés non-arabes. Le haut-commissaire de l'ONU a estimé qu'au cours des 3 premiers jours de l'offensive, au moins 6000 personnes avaient été tuées, soit 4400 à l'intérieur de la ville et plus de 1600 dans leur fuite. L'ampleur, la coordination et le soutien public apporté à l'opération par les hauts responsables des paramilitaires démontrent que les crimes commis à El Fasher et dans ses environs n'étaient pas des exactions de guerre isolées. Là, je citais le rapport de la mission. Avant la prise de la ville, 18 mois de siège ont systématiquement affaibli la population ciblée par la famine, les privations, les traumatismes et l'enfermement, la laissant sans défense face à l'extrême violence qui a suivi lors de la fin du siège. Au début de l'offensive, des milliers de personnes ont été tuées, ont été violées ou ont disparu au cours de 3 jours d'horreur absolue. Le rapport de l'ONU, donc d'une mission spéciale. Fait que Marie-Ève, écoute, je
vais
se
défouler
rough,
sur des casseroles, je pense.
Ouais, exactement, je pense ça.
L'être humain est décidément capable des pires atrocités, mais aussi de très belles solidarités. On commence non pas avec une, mais deux manifestations le même jour, c'est-à-dire ce samedi 21 mars. Mouloud en a parlé pendant son entretien. La première est à 13h30 au Square d'Orchester, en opposition à la guerre d'Israël et des États-Unis, la guerre d'agression d'Israël et des États-Unis contre le Liban et l'Iran, mais aussi contre le génocide du peuple palestinien, les attaques contre les civils et les enfants et la participation du Canada à toutes ces atrocités-là, et aussi pour une défense conséquente du droit international. La manifestation est organisée par la Coalition du Québec Urgence Palestine, les collectifs des Investis pour la Palestine et Échec à la guerre, ainsi que le mouvement de la jeunesse palestinienne Montréal. Et comme la paix et la justice migrante sont deux combats indissociables, cette manif-là va se terminer au complexe Guy Favreau, soit là où commence l'autre manifestation,
bonne idée.
À 15h, organisée cette fois-là par Solidarité sans frontières et le Centre des travailleurs travailleuses migrants, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. SSF et le CTI appellent à se mobiliser contre les attaques racistes et les politiques migratoires injustes des gouvernements et à exiger l'abolition du permis de travail fermé, des permis de travail fermés, un statut permanent pour tous et toutes, un programme de régularisation pour toutes les personnes sans statut, l'accès aux soins de santé publique est gratuit pour tous et toutes, l'arrêt des déportations et l'annulation des mesures et politiques migratoires adoptées par les gouvernements provincial et fédéral depuis 2024, dont le projet de loi C-12 dont tu as fait mention, Mathieu.
Mm-hmm. Oui.
Demain, vendredi, commence aussi la semaine d'action contre le racisme et l'égalité des chances qui se déroule jusqu'à la fin du mois.
C'est vrai.
Il s'agit de la 27e édition qui se tient cette année sous le thème « Résister et s'unir, repenser ensemble la société de demain ». Plusieurs activités sont proposées par toutes sortes d'organisations à travers le Québec, que ce soit des conférences, des ateliers d'expression artistique, des projections de films, des expositions, des soirées musicales, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez consulter le calendrier complet des activités à Montréal, mais aussi un calendrier par région. Vous pouvez voir ça sur le site de la Semaine d'Action au sacr.ca. Je poursuis et je termine avec un atelier-conférence du Cercle des Premières Nations de l'UQAM qui se tient jeudi prochain, le 26 mars à 18h et intitulé « EDI et Premier Peuple ». Ça se déroule à la fois sur la plateforme Zoom et à l'UQAM au local ARM-110 du pavillon des sciences de la gestion. Je cite un extrait du texte de présentation. Mm-hmm. « La montée des initiatives EDI dans les universités et les discours entourant la réconciliation pourraient porter à croire que les luttes contre les inégalités sont bien entamées, mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que les universités réalisent des changements significatifs pour les premiers peuples? » Cet atelier-conférence discutera des résultats d'une étude sur les politiques institutionnelles dans 19 universités au Québec, analysées à partir du cadre holistique autochtone. Les résultats révèlent des lacunes majeures dans les actions des universités pour faire face aux impacts continus du colonialisme.
Intéressant, hein?
On avait de la broute dans le toupette aujourd'hui!
On avait beaucoup de contenu et d'informations. J'espère que les gens ont apprécié. Ben ouais.
C'est déjà tout, donc. Ben déjà, en même temps, c'est tout. Ça a passé vite. Il y avait beaucoup de contenu, comme tu dis, Mathieu. Je remercie encore Mouloud Edir du collectif 19 mars pour être venu s'entretenir avec nous en studio en cette journée commémorative de la mise à pied des membres de la revue Relations et du Centre Justice et Foi. Merci à toi, Mathieu, pour cette co-animation à deux voix et une mise en onde à quatre mains.
Ben oui, ça s'est quand même bien passé. Je voulais souligner que le 21 mars, la journée des deux manifs, c'est la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale.
Oui,
ça a été choisi pour ça aussi.
Oui, je l'ai dit.
Tu l'as dit, oui. Écoute, excuse-moi, Marie-Ève. excuse-moi, j'étais dans la technique.
Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est bien de le rappeler.
Donc, Simon n'était pas avec nous aujourd'hui. Il sera de retour éventuellement.
Oui, oui, dans deux semaines, le 2 avril. Donc, on sera de retour en trio. Si ça vous tente de rester informé entre nos émissions, allez visiter notre page Facebook, parce qu'on essaie d'alimenter le plus possible avec des événements militants au Québec et des articles de médias européens qui ne sont pas censurés par les méchants.
Et d'analyse de groupes militants aussi à Montréal. Ouais.
Voilà. Je vous rappelle aussi que nos balados sont disponibles sur notre page du site de choc.ca ou encore sur www.apatridesanonymes.info. Je vous invite à nous écrire aussi, hein, par exemple, pour nous proposer des sujets, des entrevues, des événements à apatridesanonymes@resist.ca. Et donc, on va se quitter en musique avec l'artiste Michi Sagig Nishnabeg qui se nomme Liane Betasamosake Simpson, qui a sorti un nouvel album à l'automne intitulé Life Like the Sky et qui figure en 10e position du palmarès international de Choc. En plus d'être musicienne, Liane est aussi autrice. Quelques-uns de ses livres ont été traduits en français aux éditions Mémoire d'Encrier, dont Une brève histoire des barricades, qui est le plus récent à avoir été traduit en 2022. Alors, on va se laisser en écoute sur la pièce Murder of Crows.
Bonsoir.